La foi nos 52. La révélation rédemption. Le 10 décembre 2017. Brian Kozurek. Pasteur. Ce matin, je souhaite parler sur un étrange sujet concernant la foi, et mon titre Esther peut être un titre étrange à lire, et pourtant si vous vous concentrez sur le titre, ce en quoi consiste ce message deviendra très clair. Je l'appelle la révélation rédemption, et nous savons, bien sûr, ce qu'Esther la révélation, c'est Esther la foi. Car frère Branham nous a appris que la foi Esther est une révélation, quelque chose qui vous a été révélé. Et nous savons ce qu'Esther la rédemption, cela signifie racheter ou ramener à son lieu d'origine. Donc, ce que nous allons examiner ce matin, c'est notre rédemption qui nous est apportée par la révélation, et seule la révélation peut vous amener à ce que vous étiez dans la pensée originale de Dieu. Pour commencer, ouvrons nos Bibles à Éphésiens 1.3 où l'apôtre Paul nous dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Or remarquez, car en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui ou dans sa présence, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Maintenant, allons dans nos Bibles à Romains 8.29 car c'est à vous et moi qu'il, Dieu, a connu d'avance. Il, Dieu, les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, du Fils de Dieu, afin que son Fils, le Fils de Dieu, fût le premier-né entre plusieurs frères. Maintenant, être le premier-né signifie qu'il y aura aussi d'autres qui suivront le premier-né, et comme l'Esther le premier-né parmi de nombreux fils, cela nous dit que Dieu a une famille, et cette famille était en lui avant même que les fondations du monde n'aient soient posées. 30 et c'est à vous et moi, qu'il, Dieu, a prédestiné. Il, Dieu, les, vous et moi, a aussi appelé. Et c'est à encore de vous et de moi qu'il s'agit, qu'il, Dieu, a appelé. Il, Dieu, les, il parle encore de vous et moi, a aussi justifié. Et il parle encore de vous et moi, qu'il, Dieu, a justifié. Il, Dieu, les, il parle encore de vous et moi, a aussi glorifié. En doxa zo ou dans la doxa de la zoé, cela parle de la doxa de Dieu dans notre zoé, dans notre ADN même. 31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment Néhémie nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et pour établir les faits, ouvrons Jean 20.17 où nous voyons Jésus, après sa résurrection, dire à la femme. Jésus lui dit, Néhémie me touche pas, car je Néhémie suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ainsi, nous voyons que Jésus nous appelle aussi frères, et qu'il a un Dieu qui est son Père, tout comme il dit à la femme « Mais va trouver mes frères. » Frères, ce sont les frères et les sœurs, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Hébreux 2.11 Car celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Sont tous sortis, descendus d'un seul. Autrement dit, nous sommes tous la semence d'un seul Esther. Pourquoi il n'est pas honte de les appeler frères? Pourquoi? Parce que s'il était la semence originelle ou le fils originel, alors nous sommes ses frères. Alors pourquoi aurait-il peur de nous appeler ce que nous sommes? Frère Branham dit dans son sermon la parole par l'Esther la semence originelle, 62-0318-317 quand nous faisons des erreurs, il n'est mis faut pas dire, eh bien, je j'ai essuyé un échec. Non, ce n'est pas ça qui Abraham aussi a essuyé, des échecs. Voyez, 318 000 Néhémie pouvait pas prendre l'église. Il Néhémie peut pas tuer les élus. Il Néhémie peut pas vous ôter la vie. Parce que vous êtes une partie de lui-même. Vous êtes la parole. La parole Esther en vous. Elle se manifeste. Elle démontre ce qu'est l'Esther, l'amour, la joie, la paix, la patience. Toutes les paroles de Dieu, vous les croyez toutes, elles agissent, Dieu agit à travers vous. Voyez, vous êtes une partie de la parole, qui est Esther Christ. Il nous Esther enseigné qu'il Esther la parole, et nous sommes chairs de sa chair, et osés de nos osés. Voilà. Maintenant, nous avançons vers quelque chose. Or, nous avons lu la promesse et le plan de Dieu pour nous dans Éphésiens 1.3-4, selon lesquels nous sommes prédestinés à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ à lui-même, et dans Romains 8. Nous avons lu les propres paroles de Dieu, qui disent que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image du Fils premier-né de Dieu dans une vaste famille de frères. Par conséquent, nous savons que la promesse de Dieu, envers nous, c'est-à-dire que nous soyons comme son Fils premier-né, et nous savons avoir la promesse d'un changement de corps. Ainsi, nous devrions être les personnes les plus heureuses de la terre. Surtout en cette heure tardive où chaque jour semble nous dire que la fin de la rédemption est plus proche que jamais. La Bible nous enseigne alors même que notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et nous savons que toute chose concourt pour notre bien. Alors pourquoi s'inquiéter de ce qui pourra arriver? Notre frère Agnéna va-t-il pas ressusciter des morts pour notre justification? Vous dites, je pensais qu'il était mort pour notre justification. Non. Il est mort afin que vos péchés soient couverts de son précieux sang, et afin que votre vie de péché soit expiée. Mais il est ressuscité afin que vous puissiez être justifié, car être justifié signifie comme si vous n'aimiez l'aviez effectivement jamais fait. Et quand il est ressuscité pour notre justification, cela a ramené son esprit sur le croyant et nous a vivifiés par le même esprit qui était en lui, et a fait de nous des nouvelles créations en Christ. Dans son sermon, le compte à rebours 62-11-25-24 frère Branham dit, maintenant, souvenez-vous, Dieu, par Luther à l'aide de la puissance du Saint-Esprit, il a pu accomplir par Luther, à l'endroit de l'Église, la justification. Et quand l'Église a obtenu la justification, en dehors des credos de Rome, elle a commencé à avoir vie et a commencé à avancer, par la justification. Dieu a pu le faire grâce à son ambition d'amener un homme à se tenir tranquille assez longtemps pour qu'il puisse se projeter en lui, et transmettre son message aux gens. Dans Romains 4.16 l'apôtre Paul nous enseigne, c'est-à-dire pourquoi les héritiers le sont par la foi, révélation, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est la foi d'Abraham, notre Père à tous. Et encore dans Philippiens 3.9 l'apôtre Paul nous enseigne, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi, la révélation de Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, la révélation. Et revenons à Romains 3.22 où l'apôtre Paul nous dit, justice de Dieu par la foi, la révélation de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Maintenant, songez à ce que Paul a dit ici. Notre justification Néhémie vient pas par ce que nous faisons, mais par la foi qui est une révélation. Par conséquent, ce n'est pas notre foi, notre révélation, mais sa foi, sa révélation, qui nous justifie. Alors la justification est une œuvre de la grâce, quelque chose qui est totalement hors de notre portée, et s'estère un don de Dieu. Car s'estère ce qu'estère la foi. S'estère quelque chose de révélé. Ainsi, comme l'a dit frère Branham, la justification estère ce qui commence le processus de vie dans la semence, qui entre dans la manifestation de ce qu'elle estère vraiment. Ainsi vous voyez que la justification a ouvert la voie à la sanctification, qui estère la vie manifestée dans la chair, et la sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit pour qu'il descende habiter dans la chair, afin de prendre le contrôle de la chair, et le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit pour qu'il descende dans la perfection, afin de demeurer avec nous, d'être notre Dieu et que nous soyons son peuple, sa famille. Le message de Luther s'est divulgué dans la justification, libérant la vie, pour que celle-ci revienne dans l'Église. Alors la justification a donné vie à l'Église, et le message de Wesley a traité avec l'homme, purifiant sa vie en sorte que Dieu la remplisse de sa propre vie. Et quand les hommes ont commencé à enseigner cela, ils ont commencé à chercher à être remplis de l'Esprit de Dieu. S'ils n'avaient pas compris la justification, comme quoi le juste vivra par la foi, ils n'auraient pas su offrir leur corps comme un sacrifice vivant comme Paul nous l'a dit dans Romains 12. Ils auraient prêché un message légaliste et cela Néhémie leur aurait fait aucun bien. C'est là que tant de gens n'ont pas réussi à voir ce flot de vie de Luther à Wesley jusqu'à la Pentecôte à ce message. Ils considèrent le message de Wesley comme un message d'œuvre, et ils considèrent le message de Luther comme n'ayant pas d'œuvre, et leur hypothèse est complètement erronée. Le message de Wesley est sorti directement du cœur du message de Luther. Comme je viens de le dire, le message de Luther s'est divulgué dans la justification, libérant la vie, pour que celle-ci revienne dans l'Église. Alors la justification a donné la vie à l'Église, et le message de Wesley a traité avec l'homme purifiant sa vie en sorte que Dieu le remplisse de son esprit, et quand les hommes ont commencé à enseigner cela, ils ont commencé à chercher à être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Car si les hommes n'avaient pas d'abord compris la justification, que le juste vivra par la foi, ils n'auraient pas su offrir leur corps comme un sacrifice vivant comme Paul nous l'a dit dans Romains 12. Le message de Luther a engendré la vie, le juste vivra. Par la foi, par la révélation. Autrement dit, la révélation apporte la vie. Dans Romains 5.15 nous lisons, « Mais n'en estère pas du don gratuit comme de l'offense, car, si par l'offense d'un seul il en estère beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » 16 Et il n'en estère pas du don comme de ce qui estère arrivé par un seul qui a péché, car s'estère après une seule offense que le jugement estère devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. 17 Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. 18 Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justice d'un seul, version du roi Jacques. Note du Trad. La justification qui donne la vie, le don gratuit, version du roi Jacques. Note du Trad. S'étend à tous les hommes. 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. 20. Or, la loi estère intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché abondait, la grâce est surabondée. 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, avant d'aller plus loin ce matin, je veux m'assurer que nous sommes fixés sur ce que sont la justification et la sanctification. La justification vient par la foi. Donc la justification vient par une révélation. Et comme il n'y a qu'un seul Seigneur et qu'une seule foi, alors la justification vient en recevant la révélation de ce seul Seigneur. Par conséquent, la justification vient par la révélation de Jésus-Christ. Et puis si la révélation de Jésus-Christ est un don gratuit, comme Paul l'a dit, alors c'est quelque chose qui vous a été révélé gratuitement. Et si la justification est un don gratuit, alors la sanctification est aussi un don gratuit. Et si elle est un don gratuit, alors ce n'est pas ce que vous pouvez faire pour Dieu en termes de conduite, mais c'est simplement le fait de mourir à soi, de se débarrasser du moi et de s'éloigner de toute influence qui vous détournerait de sa parole. Parce que frère Branham a dit que le plus grand don est de vous écarter du chemin. Par conséquent, la sanctification, qui est sortie et est née de la justification, est pour nous un plus grand don que la justification, parce que c'est l'abandon de votre propre chair, afin que Dieu puisse entrer habiter dans votre chair par le baptême du Saint-Esprit. La sanctification est donc de prêter attention à la parole. Et comme nous le savons, puisque la justification a ouvert la voie à la sanctification, et la sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit, et le baptême du Saint-Esprit ouvre la voie pour le Saint-Esprit afin qu'il descende lui-même au milieu de nous. Par conséquent, si la justification a ouvert la voie à la sanctification serait impossible en dehors de la parole révélée. Car la justification vient par la foi qui estère la révélation. Une révélation de la parole et de la volonté de Dieu, c'estère ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 3.20, car nul n'est mis sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'estère par la loi que vient la connaissance du péché. Encore dans Romains 5.1 on nous enseigne, un étant donc justifié par la foi, justifié par la révélation, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, deux à qui nous devons avoir eu par la foi accès par la révélation à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance, qui est une vive attente, de la gloire, la doxa, de Dieu, le fait de recevoir la mentalité de Dieu. Trois bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. 4. La persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. La tribulation produit la patience. 4. La patience produit le caractère. Et le caractère mène l'espérance. D'après la version du roi Jacques. Note du Trad. 5. Or, l'espérance ou la vive attente de la promesse de Dieu à notre égard, que Dieu accomplira lui-même, Néhémie trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et s'il est donné, c'est un don gratuit. Et le Saint-Esprit est la vie même de Christ. Dans Romains 2.25 la circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. 26. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision Néhémie serait-elle pas tenue pour circoncision? 27. L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, Néhémie te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Paul nous dit ici que votre circoncision dans le cœur est votre séparation du monde, et cela Néhémie compte pour rien si vous êtes un transgresseur du message. Il a dit que ces choses que vous faites pour Dieu vous seront utiles, si vous gardez foi dans le message, mais si vous devenez un transgresseur du message, alors votre circoncision devient une circoncision ou votre séparation des choses du monde n'est pas du tout comptée comme séparation. Au verset 28, il poursuit, le croyant du message. Ce n'est pas celui qui en est allé dehors, ni celui qui se considère comme séparé du monde. Qui est séparé extérieurement dans la chair? 29. Mais un vrai croyant du message, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la séparation du monde est celle du cœur, de l'esprit et non de la lettre, dont la louange n'émit vient pas des hommes, mais de Dieu. Concernant la foi, Martin Luther a déclaré, la foi n'est pas ce que certains pensent qu'elle est. Leur rêve humain est une illusion. Parce qu'ils observent que cette foi n'est pas suivie de bonnes œuvres ou d'une vie meilleure, ils tombent dans l'erreur, même s'ils parlent et entendent beaucoup parler de foi. La foi ne m'y suffit pas, disent-ils. Vous devez faire de bonnes œuvres. Vous devez être pieux pour être sauvé. Ils pensent que, lorsque vous entendez l'évangile, vous commencez à œuvrer, à créer par vos propres forces un cœur reconnaissant qui dit, je crois. C'est ce qu'ils pensent qu'est la vraie foi. Mais, comme c'est une idée humaine, un rêve, le cœur n'en apprend jamais rien. Donc cela n'est mis produit rien et la réforme n'est mis vient pas de cette foi, non plus. Au contraire, la foi est l'œuvre de Dieu en nous, qui nous change et nous donne une nouvelle naissance venant de Dieu. Jean 1.13 Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La foi, révélation, tue le vieil Adam et fait de nous des personnes complètement différentes. Elle change nos cœurs, nos esprits, nos pensées et toutes nos puissances. Elle apporte le Saint-Esprit avec elle. Notez que Martin Luther a dit que la foi, que nous savons être la révélation, apporte le Saint-Esprit avec elle. Elle ouvre la porte à recevoir la nouvelle naissance et permet à l'Esprit de Dieu d'entrer vivre dans nos cœurs. En fait, frère Branham a dit la même chose. Dans le message intitulé, Questions et réponses 54-05-5 frère Branham a dit, 239 Maintenant regardez bien. Maintenant voici ce qu'il dit ensuite, toi. Tu es Aï Simon. Et je te donnerai. Parce qu'il avait reçu la vérité spirituelle. Révélée. C'est pour cette raison qu'il a su faire la distinction entre Père, Fils et Saint-Esprit. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il avait une révélation spirituelle. Et souvenez-vous que c'est ce que Jean a dit. Quand il a dit, celui qui n'a pas la doctrine de Christ n'a même pas Dieu. Et celui qui a la doctrine du Christ a, les deux, le Père et le Fils. Maintenant, en continuant avec la pensée de frère Branham à ce sujet, il continue. C'est ce que vous comprenez ce soir, c'est ce que le Saint-Esprit nous dévoile. 240 Il a dit, tu es Aï Simon, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur cette terre, je le lirai dans les cieux. Ce que tu délieras sur cette terre, je le délierai dans les cieux. L'a-t-il dit? Dans Matthieu, au chapitre 16, ce que tu liras sur la terre, je le délierai dans les cieux. Et je te donnerai les clés, de quoi? Du royaume des cieux. Le royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit. Alors quelle est la clé du Saint-Esprit? La révélation. Remarquez comment frère Branham a dit que les clés du royaume des cieux sont la révélation de la parole de Dieu. Et il dit que cette révélation de la parole de Dieu a les clés pour accéder ou recevoir le Saint-Esprit. Nous savons que le Père est la parole et que son Fils Jésus-Christ, loin, était la parole faite chair, ce qui signifie qu'il est la parole de Dieu manifestée ou exprimée ouvertement. Maintenant, Jésus est typifié comme étant la porte. Il a dit, personne n'est mis, peut entrer ou sortir si ce n'est par moi. Par conséquent, c'est la parole manifestée qui est à l'entrée, et c'est ce qu'est la révélation. vous Néhémie, pouvez même pas percevoir ce qu'Esther le royaume de Dieu, si ce n'Esther par la révélation. Dieu interprète sa propre parole en faisant quoi? En l'accomplissant. Par conséquent, la révélation de la parole Esther a la capacité de voir la parole de Dieu manifestée et d'être capable de la ramener à la parole écrite, pour connaître le jour et l'heure dans lequel vous vivez. Dieu vous donne la capacité de la voir et ensuite de reconstituer ce que vous voyez avec la parole que Dieu a déjà déclarée à l'avance. Par conséquent, la révélation n'est pas une notion humaine ou une perception humaine, mais c'est plutôt être capable de voir la parole vivre devant vous. Comme le dit notre dictionnaire, la révélation est une manifestation de la vérité divine. Et alors que vous voyez cette parole vivre d'elle-même sous vos yeux, vous devenez une partie de la scène qui se déroule. Une pièce vivante qui se déroule dans laquelle vous êtes l'un des acteurs. Or, une porte est une entrée dans quelque chose, et puisque cette porte est la parole de Dieu manifestée, si vous n'avez pas la clé de cette porte, sinon la serrure de la parole restera à jamais verrouillée pour vous. Et par conséquent l'entrée dans le royaume vous est fermée. Martin Luther savait de quoi il parlait concernant cette foi qui vit dans le croyant. Car il a dit, oui, c'est une chose vivante, créative, active et puissante. Cette foi. La foi Néhémie peut s'empêcher de faire constamment de bonnes œuvres. Elle Néhémie s'arrête pas pour se demander si les bonnes œuvres doivent se faire, mais avant que quiconque Néhémie le demande, elle les a déjà faites et continue de les faire sans cesse. Quiconque Néhémie fait pas de bonnes œuvres de cette manière est un incroyant. Il trébuche et cherche la foi et les bonnes œuvres, même si Néhémie sait pas en quoi consiste la foi ou les bonnes œuvres. Cependant, il papote et bavarde sur la foi et les bonnes œuvres par beaucoup de mots. La foi est une confiance vivante et audacieuse en la grâce de Dieu, si certaine de la faveur de Dieu, qu'elle risquera mille fois la mort en lui faisant confiance. Une telle confiance et une telle connaissance de la grâce de Dieu vous rend heureux, joyeux et audacieux dans votre relation avec Dieu et toutes les créatures. Souvenez-vous, Frère Branham a prêché un message intitulé « La foi est la victoire ». Et c'est exactement ce qui arrive à ceux qui ont la foi. La foi rend la parole de Dieu vivante pour vous et sans la foi, vous êtes les hommes les plus misérables. Montrez-moi une personne avec la foi et je vous montrerai une vie remplie de victoire. Martin Luther poursuit en disant, le Saint-Esprit fait cela se produire par la foi. À cause de cela, vous faites du bien librement, volontairement et joyeusement à tout le monde, servez tout le monde, souffrez toutes sortes de choses, aimez et louez le Dieu qui vous a montré une telle grâce. Et je voudrais ajouter, montrez-moi une personne qui n'aime pas servir les autres volontairement, et qui n'a pas de joie dans sa vie, même au milieu des épreuves, et je vais vous montrer une personne qui n'a pas la foi et qui manque donc de ce qu'il faut pour entrer dans le royaume de Dieu, et, en fait, qui Néhémie marche pas dans la lumière, et Néhémie voit pas la parole révélée et rendue vivante dans sa vie. Martin Luther a encore dit, ainsi, il est tout autant impossible de séparer la foi des œuvres que de séparer la chaleur et la lumière du feu. Par conséquent, faites attention à vos fausses idées et gardez-vous de ces bons à rien de discoureurs, qui pensent qu'ils sont assez intelligents pour définir la foi et les œuvres, mais qui sont en réalité les plus grands imbéciles. Demandez à Dieu de produire la foi en vous, ou vous resterez à jamais sans foi. Peu importe ce que vous souhaitez, ce que vous dites ou ce que vous pouvez faire. Par conséquent, ce que nous examinons ici, c'est peu importe ce que vous faites en parole ou en acte. Si cela Néhémie vient pas du cœur alors ce n'est pas réel et authentique. Et par conséquent, ce n'est même pas agréable à Dieu. Et, en fait, ce sera retenu contre vous comme si vous aviez fait le contraire. Eh bien, alors vous pourriez dire, à quoi ça sert alors? À quoi ça sert de travailler si dur pour être un chrétien craignant Dieu si cela n'a aucun mérite en soi? Et si cela vous vient à l'esprit, c'est-à-dire parce que vous êtes humain. Si nous ouvrions nos Bibles au prochain chapitre de l'Épître aux Romains, nous verrions que Paul aborde ce même genre de pensée. Remarquez ces paroles alors qu'il continue à examiner cette pensée dans Romains 3.1. Quel avantage alors y a-t-il à être un croyant? Ou quel profit y a-t-il, ou quelle valeur ou quel avantage y a-t-il de nous séparer des soucis du monde? Et il commence à répondre à cette question au verset 2. De toutes les manières, principalement parce que c'est à eux que furent confiés les oracles de Dieu. En d'autres termes, Paul commence par dire, et il y a une grande valeur impliquée ici, car après tout, en tant que croyant, on vous a confié la parole de Dieu. Et Dieu n'y fait pas cela sans raison. Il n'y fait pas ça pour n'importe qui. C'est seulement à ses élus qu'il se révèle ouvertement et qu'il révèle son plan. Et en songeant à ses pensées, Paul nous dit qu'il y a quelque chose de spécial dans cette relation entre Dieu et ses élus, parce qu'il n'aime montre ou n'aime révèle simplement pas sa parole à n'importe qui. Or, remarquez comment, jusqu'à ce point, Paul a tout retiré de vos mains et a tout placé dans les mains de Dieu. Paul poursuit ici dans cette même ligne de pensée. 3 Eh bien, que se passerait-il si certains Néhémie croyaient pas et étaient sans foi? Ou Néhémie pouvait pas exercer de foi? Leur manque de foi et leur absence de foi invaliderait ou annulerait-il la foi de Dieu afin qu'elle soit sans effet? L'incrédulité d'une personne peut-elle changer la fidélité de Dieu? Ce que vous faites peut-il changer la fidélité de Dieu à sa parole? Ou est-ce ce que tout ce que vous faites est associé avec le fait que Dieu tienne parole? Puis il répond, 4 Dieu nous en préserve, oui. Que Dieu soit vrai, mais que tout homme soit menteur, comme il est écrit, afin que tu sois justifié dans tes paroles, et que tu sois vainqueur quand ta parole est mise en jugement. 5 Mais si notre injustice ou dirons-nous notre manque de juste sagesse, qui est notre mauvaise compréhension, ou mauvaise façon de penser, si jamais elle pouvait établir la justice de Dieu, que dirons-nous alors? Dieu est-il injuste de nous punir pour notre manque de juste sagesse? Puis, Paul dit, je parle comme penserait un homme charnel 6 et je le répète. Dieu nous en préserve. Car alors comment Dieu jugera-t-il le monde? En d'autres termes, si la justice suprême de Dieu dépendait de tout ce que nous ferions, alors comment pourrions-nous jamais nous attendre à un jugement juste de tous les hommes? Dieu n'est pas comme les autres juges. Il ne dépend effectivement pas d'une décision judiciaire antérieure. Et ses jugements ne changent pas de temps à autre. Car il est le même et ne change pas. Pouvez-vous vous imaginer un juge juste qui juge un homme selon certains critères et un autre homme selon d'autres? Ce serait de la politique comme nous le voyons tant à Washington. Ils ont fait d'un projet de loi une loi nationale sur les soins de santé qui a fait exception de certains groupes, trahissant une préférence de traitement pour une catégorie de gens. Et puis lire Internal Revenue Service, le service des impôts, note du TRAD, a persécuté les gens qui étaient de droite, et a usé de deux poids, deux mesures en matière de droit. Un poids et une mesure pour les libéraux et les démocrates et un poids et une mesure pour tous les autres. On voit ça se faire tous les jours à Washington. Bill et Hillary Clinton pourraient enfreindre toutes les lois existantes et n'aimer pas être tenus pour responsables, mais laisser quelqu'un d'autre, de l'autre côté de la barrière politique regarder dans le mauvais sens et ils ont droit à la prison. Ainsi, comme Paul l'a dit, que Dieu se garde d'être un Dieu injuste dans sa justice. Si Dieu était comme ça alors comment pourriez-vous savoir selon quels critères vous serez jugé? Puis Paul continue en disant au verset, 7 Mais si vous dites, Si par mon mensonge l'intégrité de Dieu est manifestée et annoncée, et abonde à sa gloire, pourquoi alors suis-je encore jugé comme pécheur? 8. Et pourquoi Néhémie ferions-nous donc pas le mal acquis pour que le bien résulte? Comme certains nous accusent, calomnieusement, d'enseigner. Et si cela était vrai, alors un tel faux enseignement serait condamné à juste titre par eux. 9. Eh bien, sommes-nous supérieurs à eux et mieux lotis qu'eux? Non. En aucun cas, car nous avons déjà prouvé que les croyants et les non-croyants sont tous sous le péché, retenus et soumis à sa puissance et à son contrôle. 10. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste. Non. Pas un seul. 11. Personne Néhémie comprend. Personne Néhémie cherche Dieu. 12. Ils sont tous sortis du chemin et se sont détournés de Dieu. Ils ont tous ensemble le mal acquis tourné et sont devenus improductifs et inutiles. Personne Néhémie fait le bien. Non. Pas même un seul. 13. Leur gorge est une tombe ouverte. Avec leur langue ils trompent. Le venin d'un serpent est sous leurs lèvres. 14. Leurs bouches sont pleines de malédictions et d'amertume. 15. Leurs pieds sont prêts à verser le sang. Oh là là! Dans quel état se trouve l'homme? Pas seulement l'incroyant, mais tout homme est né dans le péché, façonné dans l'iniquité et venu au monde en disant des mensonges. C'est ce que la Bible enseigne. Au verset 16. Paul nous dit que la destruction et la misère sont sur leur sentier. 17. Et ils n'ont pas connu le sentier de la paix. Ils n'ont aucune expérience de la paix et ils n'en ont donc pas la moindre idée. 18. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. 19. Maintenant, nous savons les choses que les préceptes et les principes de Dieu disent. Ils leur disent à ceux qui sont sous les principes de Dieu, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit coupable devant Dieu. 20. Car personne Néhémie sera justifié au rang du juste, acquitté et jugé acceptable à ses yeux en observant simplement les œuvres prescrites dans les principes de conduite, d'ordre et de doctrine. Car la vraie fonction de ces principes est de faire reconnaître et prendre conscience aux hommes de la sainte présence de Dieu, pas seulement une simple perception, mais une vraie connaissance de sa divine nature, qui amènera l'homme à une vraie repentance et à un caractère saint. D'accord? Lisons maintenant à partir de 21. Mais maintenant la justice de Dieu a été révélée et manifestée indépendamment et totalement en dehors des principes de conduite. Et la parole de Dieu et les prophètes en témoignent. 22. À savoir que la justice de Dieu qui est par la foi de Jésus-Christ a donné à tous et s'adresse à tous ceux qui croient. Et vous Néhémie pouvez pas croire à moins que vous Néhémie soyez ordonné à croire. C'est ce que nous découvrons dans Actes 13.48. Les pagènes se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Or, dans Romains 3.23, Paul nous dit que car tous ont péché, et il dit aussi, et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, souvenez-vous que ce mot gloire a été traduit du mot grec doxa qui est l'essence même de la pensée de Dieu, ses opinions, ses valeurs et ses jugements, et Paul nous dit que personne n'arrive à la comprendre. Personne n'aimait penser les pensées de Dieu, pas plus qu'il n'avait ses valeurs ou ses opinions correctement. C'est exactement ce que Dieu a dit dans Esaïe 55.8 car mes pensées Néhémie sont pas vos pensées, et vos voix Néhémie sont pas mes voix, dit l'Éternel. 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Par conséquent, au verset 24, Paul nous dit la seule façon pour nous d'être justifiés, c'est par l'exercice gratuit de sa grâce par la rédemption, qui est en Jésus-Christ, et au verset 25 Paul nous dit que c'était Dieu qui avait présenté son Fils comme une propitiation pour nos péchés à travers la foi en son sang. En d'autres termes, pour nous, il est devenu notre propitiatoire. et notre foi dans le sang de son fils Esther la chose qui enlève notre tâche. Et Dieu l'a présenté et a ordonné que nous venions par la foi seule. Et comme la foi Esther une révélation, alors nous devons venir au moyen de la révélation seule. Relisons cela. Et Dieu le présenta et ordonna que nous venions par la seule révélation, afin de déclarer sa justice parce que dans sa tolérance divine, il n'a pas tenu compte et a même ignoré et complètement remis nos anciens péchés sans châtiment. Et c'est exactement ce que disait frère Branham au paragraphe 317, quand il a dit, il n'est mis faut pas dire, eh bien, j'ai essuyé un échec. Comment pouvez-vous être un échec lorsque vous êtes ordonné à la gloire, prédestiné à l'adoption de Jésus-Christ et ordonné pour être semblable à l'image du Fils premier-né? Comment pouvez-vous être un échec alors que Dieu lui-même a dit dans sa parole, c'est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir? Comment pouvez-vous être un échec quand Dieu lui-même a dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite? Comment pouvez-vous être un échec quand Dieu lui-même a dit, celui qui est Esther le chef et le consommateur de notre foi, notre révélation? Jésus a-t-il été un échec quand il a dit, le Fils Naomi peut rien faire de lui-même, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement? Alors, comment pouvez-vous être un échec si Dieu Naomi vous a pas encore montré ce qu'il veut que vous fassiez? Jésus n'a pas fait de miracle pendant les 30 premières années de sa vie, jusqu'à ce que Dieu commence à lui montrer quoi faire et quand le faire. Au verset 26, Paul continue en disant, « Cela a été fait pour déclarer et démontrer, en ce temps présent, sa justice, qu'il justifie et accepte celui qui a la vraie foi, la vraie révélation en Jésus. » 27 alors, « Que deviennent notre orgueil et notre vantardise ? C'est-à-dire totalement exclu, banni, écarté. Sur quel principe ? Sur le principe des œuvres et de faire des bonnes œuvres en obéissant aux commandements de Dieu ? Non, mais sur le principe de la seule foi, révélation. En d'autres termes, si cela était fondé sur ce que vous faites, alors vous seriez à même de vous vanter. Mais comme Dieu a enlevé toutes les voies possibles pour se vanter, il fonde notre justification sur la foi, qui est un don, ce qu'il nous a donné. Il fonde notre sanctification sur une révélation qui dit, « Je suis crucifié avec Christ, je suis mort à moi-même, et si je suis toujours en vie, ce n'est pas moi qui suis en vie, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant je la vis par la foi, la révélation du Fils de Dieu. » 28 Par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié, rendu droit et considéré comme juste par la seule foi, révélation, indépendante et sans l'aide de bonnes œuvres à suivre les commandements de Dieu. Par conséquent, l'observance des commandements de Dieu n'a rien à voir avec notre justification. Puis Paul ajoute, 29 Est stérile seulement le Dieu des Juifs? N'est stérile pas aussi celui des gentils? Oui. Celui des gentils aussi. 30 Puisque c'est un seul et même Dieu qui justifiera la circoncision par la foi, la révélation et la non-circoncision par la foi, la révélation et puisqu'il n'existe qu'une seule foi ou une seule révélation de Jésus-Christ, sa foi à lui, alors, 31 Rendons-nous donc, en recevant cette foi, la révélation, les commandements de Dieu sans effet? Est-ce ce que nous les renversons? Ou les annulons? Il dit, Dieu nous en garde. Mais au contraire, nous confirmons et établissons et respectons les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la vie pour nous. C'est notre vie. Quand Christ qui est notre vie apparaîtra, alors nous apparaîtrons aussi avec lui dans la même gloire, dans la même doxa, dans les mêmes valeurs, dans les mêmes opinions, et dans les mêmes jugements. alors que la pensée qui était en Christ soit en vous. Donc, ce que Paul nous enseigne au troisième chapitre des Romains, c'est que Dieu a établi les principes que nous devons observer. 1. Les principes de conduite et 2. Les principes d'ordre et 3. Les principes de doctrine. Mais il nous dit aussi que ces principes et notre observation de ces principes n'ont rien à voir avec notre salut et ils n'ont rien à voir non plus avec le fait que nous soyons gratuitement justifiés et acceptés comme innocents, confirmés comme étant justes. Autrement dit, ce que Paul nous dit, c'est que notre justice n'est émise vient que par une seule voie et c'est un don gratuit de Dieu pour nous, et cela vient par la foi, par la révélation et par la foi seule ou la révélation seule. C'est le seul accès à ce don gratuit de justice, righteousness, en anglais, qui est la juste sagesse et ce, righteousness en vieil anglais, note du trad. Ou une compréhension correcte. Or, nous savons que la foi est une révélation, et par conséquent, il nous dit que cela doit être la même révélation que Jésus avait. Car dans Galates 2.20 il dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, la révélation du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Maintenant, comment un homme peut-il être à la fois crucifié et vivre? Car il dit, en fait, j'ai été crucifié avec Christ. Et frère Branham nous le fait comprendre très clairement quand il dit, quand Jésus a été crucifié, nous étions en lui, et nous sommes allés à la croix avec lui, car nous étions en lui, et nous avons ressuscité avec lui le troisième jour. Maintenant, la plupart des croyants comprennent que la vie est dans le sang. Et même la science prouve que la vie est dans le sang. Ensuite, si vous et moi devions avoir la même vie qui était en Jésus, elle devrait venir du même sang qui a coulé dans ses veines, n'est-ce pas? Alors, comment avons-nous reçu ce sang? Dans son serment La demeure future, frère Branham dit que quand Jésus est mort sur la croix, quand ils ont percé son côté, son sang a coulé de cette plaie ouverte et s'est répandu sur la terre. Maintenant, notre semence de vie était sur la terre pour commencer. Dieu l'a placée là. Ça. C'est Genèse 1.11-12. Genèse 2.5 et Psaume 1.3 et quand ce sang a été répandu sur la terre, cela a non seulement racheté la terre, mais également la vie de la semence qui était sur la terre. Genèse 1.11-12. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse 2.5 Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'est mis germain encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Psaume 1.1-3 Un heureux l'homme qui n'est mis marche pas selon le conseil des méchants, qui n'est mis s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui n'est mis s'assied pas en compagnie des moqueurs, de mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage n'est mis se flétrit point, et tout ce qu'il fera prospérera. 4. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et le sang de Jésus-Christ a non seulement payé le prix et racheté ce qui était légitimement à lui, mais il a aussi vivifié cette semence qui était sur la terre mêlant son propre sang à cette semence et lui donnant la vie. La même vie qui était en lui qui venait du Père. Jean 5.26, car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi la donne au Fils d'avoir la vie en lui-même. Alors si nous avons reçu sa vie, la même vie qui était dans le Père, si nous avons reçu cette vie par le sang de son Fils, alors d'une certaine manière, on peut dire que nous sommes des images clonées de son Fils par le sang de son Fils. Les demeures futures de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre 64-080208. Maintenant, le monde, pour le racheter pour cette personne rachetée, il utilise sa méthode. Il est baptisé d'eau, d'après la destruction antédiluvienne. Il a versé son sang dessus, pour le sanctifier et le revendiquer. Il est stère à lui. Satan a essayé de dire, « Je vais te les donner. » 109 il a dit, « Non monsieur, je vais l'acheter. » Que cela serve de témoignage. Il a été élevé, comme signe de ce qu'il a acheté. Il l'a acquis. 110 mais maintenant, il doit passer par un baptême de feu, de saint feu de Dieu, qui purifie la terre et les cieux qui l'entourent. Alors, elle sera acquise, pour que les rachetés puissent y vivre, et vivre en paix. 281 et, regardez, vous êtes une partie de ce sol. Pas vrai? Et quand il vous a acheté, il a racheté la terre par la même chose, et vous êtes de nouveau ensemble. Oh! Comment est-ce que ça pourrait être plus clair? Voyez, vous devez être racheté, parce que vous en faites partie. Et si le sang n'a pas coulé sur vous, vous n'êtes pas encore racheté, vous n'êtes pas appelé. Ensuite, il l'a purifié. C'est Esther la même chose qu'il a fait par le feu. C'est Esther vrai, pour être une demeure pour Dieu. 282 Dieu a déjà élu domicile, potentiellement, le royaume de Dieu Esther sur la terre en ce moment, dans le cœur ses saints. Ce sont ses attributs qu'il a commencé au commencement. Maintenant, ses attributs sont rachetés. Qu'est-ce qu'il attend? De racheter la terre, pour y placer ses attributs, pour accomplir exactement son plan prédestiné. Est-ce que vous le voyez? 290 Dieu, et sa création, et ses créatures de cette création sont rachetées par son propre sang. Purifiées par son propre procédé de purification, son procédé qui tue les germes, qui tue le péché. 291. Comme quand on stérilise quelque chose, la meilleure stérilisation qu'on ait jamais eue, c'est Esther le feu. On peut prendre n'importe quoi et le laver avec de l'eau savonneuse et tous ces produits chimiques dont il parle, ça n'est mis le débarrasse pas encore complètement. Mais brûlez-le une fois. 292 Et quand le Saint-Feu de Dieu stérilisera la terre avec les produits chimiques, il aura enlevé son épouse, qui pourra entrer au ciel avec lui, pendant que tout ça se déroule. Pour ensuite revenir sur terre, un nouveau ciel et une nouvelle terre. 312 Jean a dit, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, comme une épouse qui s'estère parée pour son épouse. Et où est-ce ce qu'elle s'estère installée? Exactement comme il l'avait fait là-bas. Sur la terre. 313 Jésus était une partie de cette terre sur laquelle le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas? Et il est resté sur lui pour toujours. Il n'est mis peut jamais le quitter. Il est toujours là. Lui et Dieu sont un. Il doit toujours y rester. 314 Et donc, Jean a vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre comme une comète, ou une colombe, descendre du ciel et s'établir sur une terre rachetée, entière. Pourquoi faire? Pour revendiquer tous les attributs pour lesquels il avait fait la terre. Tous les hommes qui étaient représentés dans l'éternité, et toutes les femmes, sont rachetés, alors. Elle a été récurée et brûlée par le feu. 315 Jésus, dans ses tentations ardentes dans le désert, pendant 40 jours. Après ça, remarquez, c'était prêt pour son ministère. Alors, pensez-y, le Saint Esprit qui descend sur terre, Jésus, et se sent sacré. Maintenant, regardez bien, et j'espère que je n'ai mis, mais pas trop profond pour vous. Vous voyez. 357 Regardez, ses mains ont conçu ça pour son épouse bien-aimée, conçu avec un tendre amour pour son épouse. 358 Rappelez-vous que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, et Jésus était une partie de la terre. Pourquoi? Le germe de Dieu, la vie de Dieu, a été conçu dans le sein d'une femme, pas vrai? Qui était la terre. Très bien. Et, alors, la vie de Dieu est entrée. Donc, il était le commencement de la création de Dieu. Voyez? Et, alors, ce sang de Dieu, qui était là par ce germe, quand il a été versé au calvaire, il est retombé sur la terre. Pourquoi faire? Pour racheter la terre. Maintenant, elle a été justifiée. Elle a été sanctifiée. Appelée revendiquée. Et maintenant elle doit recevoir son baptême de feu. Et être purifiée pour Jésus et son épouse. 359 Et vous? Vous êtes ces autres parties qui sont tirées de la terre. La terre? Vous êtes une partie de la terre? Votre corps. Votre âme est une partie de Dieu, un attribut de Dieu, manifesté ici sur terre dans un corps. Le corps doit être encore racheté. 360 Maintenant, l'âme est rachetée, parce qu'elle était dans le péché. Donc Dieu est descendu, par un processus de justification, de sanctification, de baptême du Saint-Esprit, et a racheté votre âme. 361 Et vous, comme vous êtes une partie de la terre, elle est rachetée par là. Vous êtes dans le processus maintenant. Ça continue à pousser. Donc, si nous parlons de la rédemption, alors cela signifie ramener, ou racheter signifie acheter de nouveau, pour son propriétaire légitime. Et nous savons que notre ascendance remonte à Dieu. C'est pourquoi Jean a dit dans Jean 3.2 Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, lorsqu'il apparaîtra, d'après la version du roi Jacques. Note du Trad. Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et encore dans Galates 4.6 nous lisons, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, l'Esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Remarquez parce que vous êtes des fils. Cela signifie que vous êtes déjà, et parce que vous êtes ce que vous êtes, Dieu fait quelque chose, et c'est qu'il promet d'envoyer, à chaque fils, le même esprit qu'il a placé dans son fils premier-né, afin que cela puisse faire sortir de nous la même chose que cela a fait sortir de son fils. Nous devrions être si reconnaissants de savoir que non seulement nous sommes des fils, mais que nous pouvons également faire remonter notre ascendance jusqu'à Dieu au commencement. Car nous savons que cette capacité à connaître que notre ascendance remonte jusqu'à avant les fondations du monde, quand nous étions en lui, n'est-ce pas dû à un registre historique physique, comme ils l'ont fait à l'époque de Jésus, le Fils de Dieu, qui pouvait faire remonter son ascendance jusqu'à Adam. Mais nous savons, que nous sommes des fils parce qu'il a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, par lequel nous crions Abba Père. Nous savons selon Genèse 1.11 que chaque semence produira selon son espèce, et nous savons qui nous sommes parce que nous avons réagi positivement à la lumière et avons manifesté ces caractéristiques de la foi, par la révélation, dans la parole de Dieu, tout comme Jésus-Christ l'a fait avant nous. Comme Paul l'a dit, « Je suis crucifié avec Christ. Néanmoins je vis. Mais ce n'est pas moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans cette chair, je vis par sa foi. La foi du Fils de Dieu, qui s'est dépouillé de sa vie pour que je puisse vivre. Maintenant, il est crucial que nous sachions que notre ascendance remonte jusqu'à Dieu. Nous recevons la capacité de faire remonter notre ascendance jusqu'à Dieu lui-même. Et cela a à voir avec la semence. Et en fait, la semence est l'un des enseignements doctrinaux les plus importants que William Branham nous a enseigné. Parce qu'après tout, en dehors de la divinité, la chose la plus importante est la semence. Car si vous n'êtes pas venu de Dieu, alors vous n'avez aucune représentation en lui. Et par conséquent, si vous n'étiez pas en lui avant que le monde Néhémie commence, alors, vous Néhémie ferez pas partie de lui quand le monde finira. Comme frère Branham a dit, s'il n'y a pas de représentation là-haut, vous n'aurez pas de représentation ici. Et nous avons lu Éphésiens 1.3-5 et Romains 8. Maintenant, Dieu nous a donné la capacité de faire remonter notre ascendance jusqu'au Père. Remarquez que dans Genèse 1.11 et puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Ainsi, nous voyons ici qu'il y a la loi de la reproduction, la loi de vie, que Dieu a établie, afin de régir la nature de toute forme de vie, et il a dit, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Par conséquent, nous voyons que cette loi de la reproduction Néhémie peut être modifiée. Et si nous voulons connaître notre ascendance, alors nous devons nous tourner vers la semence originelle. Voir quels sont les attributs que nous affichons et recherchons ensuite la semence originelle pour voir quels attributs elle a affichés. Alors nous connaîtrons à quelle ascendance nous appartenons. Parce que toute vie vient de la semence d'une espèce ou d'une autre, et toute vie est reconnue par sa nature. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, septembre 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.